Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Dieu finit par nous donner ce qu'on veut. Et je me... Est-ce que c'est bon? Non! Louise l'a convaincu. Non. Ben, il y a des bons passages qui nous disent, par exemple, dans le psaume 37, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça, ce sont des beaux passages. Il y a encore un homme qui était dans le temple à Jérusalem, puis il se frappait à la poitrine, puis il disait « Oh Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Dieu, c'est écrit, et Dieu, il retourna dans sa maison justifié. Dieu a donné à cet homme-là la miséricorde, il a donné le pardon à cet homme-là. Donc, la question, c'est, est-ce que c'est toujours bon d'avoir qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est toujours bon quand Dieu nous donne qu'est-ce qu'on veut? Et donc, aujourd'hui, mon message va toucher beaucoup au centre de nos désirs, parce qu'il nous est demandé dans la Bible d'aimer Dieu avec tout notre cœur. Et donc, l'homme doit faire attention à ce qu'il désire ou à ce qu'il veut. Je m'intéresse dans la série, que c'est mon troisième message, sur la parabole des terrains. Jésus nous enseigne que le royaume, c'est comme un semeur qui est sorti pour semer, puis il a mis ses semences à divers endroits, et il y a une seule place que la semence a porté du fruit. Et donc, moi, je m'intéresse à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur pour savoir si la semence de la Bible, la parole de Dieu, va porter en nous du fruit ou elle n'en portera pas. Okay? Et donc, mon cœur, mon désir ce matin, c'est qu'après avoir écouté mon message, vous ayez le goût d'être un disciple qui porte du fruit. Et donc, je me suis couché hier encore avec un message qui n'était pas complet, complètement, puis c'est à 5 heures ce matin, que, entre 5 heures et 6 heures et demie, en fait, j'avais des bonnes idées, puis je me suis dit, je peux dormir encore au moins une heure et demie avec ça. Mais je suis resté éveillé quand même, puis je pensais à comment que j'étais pour prêcher mon message ce matin. Et il y a un passage qui est venu à ma pensée, c'est dans le psaume 127 qui dit, « C'est inutile de se lever tôt ou de se coucher tard pour travailler pour un pain qui ne nourrit pas. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Fait que j'ai resté couché, puis je me suis dit, j'avais mon message pour un matin. Fait que je pense que c'est encourageant. Je pense que c'est aussi stimulant. Puis une des choses qui nous stimule en tant que disciples de Jésus, c'est sa grâce. Et donc, je vais commencer avec une question. Pourquoi le fait de ne pas y être arrivé ne devrait pas nous décourager? Parfois, tu lis ta Bible ou tu écoutes un message, puis tu parles avec d'autres chrétiens, puis tu as l'impression qu'en tant que disciple de Jésus, tu as encore des croûtes à manger, tu sais. Puis des fois, tu regardes tes propres échecs, tes fautes, tes péchés, tes manquements, puis tu regardes, puis tu... Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas se décourager? Ben, parce que on a la grâce de Dieu. Dans ma série que je suis en train de faire, c'est facile d'être découragé. C'est facile d'arriver à, est-ce qu'on va y arriver à un moment donné? Parce que ma série est une critique contre le christianisme moderne. Donc, je nous parle, je me parle, puis je critique, mais pas dans le sens d'être négatif, mais dans le sens de qu'est-ce qui marche pas dans la façon de vivre sa vie chrétienne dans les temps modernes. Donc, c'est certain qu'on va voir des anomalies dans le monde, dans l'Église, puis dans nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important que même si on se sent disqualifié à certains moments quand on écoute la parole ou qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit, qu'on se rappelle de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est la faveur donnée de Dieu quand nous ne l'avons pas méritée. C'est Dieu qui, même si on n'a pas été à la hauteur, Dieu veut nous donner sa faveur. Donc, je vais parler d'avoir un bon cœur ce matin. Si je veux qu'on retienne ça, ça serait d'avoir compris ce matin qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un bon cœur. Un bon cœur, ça ne veut pas dire une personne qui n'a pas échoué, ça ne veut pas dire une personne qui est toujours dans un sentier qui est droit, mais je vais essayer de l'expliquer ce matin. Donc, la grâce de Dieu, elle nous est donnée pas quand on a tout réussi les tests, mais quand on a un cœur qui est bon, quand on a un cœur qui est honnête et bon. Jésus, quand il décrit les différentes terres dans lesquelles la semence est tombée, il explique qu'il y a une terre qui est labourée, puis qui a porté du fruit. Puis Jésus va dire que ça, c'est un cœur qui est honnête et bon. Et cette terre-là, c'est celle-là qui a porté du fruit. Votre parcours, puis mon parcours, n'est pas une ligne droite, mais on est plus souvent en dehors du sentier que dans le sentier. Si on veut être honnête, là, si on n'a pas peur du constat, on va s'apercevoir que le bien qu'on veut faire, on le fait souvent pas, puis le mal qu'on veut pas faire, on le fait, puis qu'on est donc souvent plus en dehors du sentier que dans le sentier. Par contre, on peut avoir un cœur qui est bon. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Donc, on fait des mauvais coups, souvent, en dehors de ce qu'on sait qu'on devrait faire. Puis des fois, on est dans la traque du chemin droit, si on peut dire, puis on fait des bons coups. Ça arrive aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas se décourager quand on n'est pas encore arrivé à l'endroit où on veut être? Bien, dans Hébreux 12, c'est écrit, « Mon fils, perds pas courage quand Dieu te reprend, parce que le Seigneur, il reprend celui qu'il aime. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. » Dieu, il nous dit, reviens dans le chemin. Puis quand il fait ça, c'est pour produire en nous la paix et le fruit de sa justice, une vie juste. Dans mon dernier message, j'ai parlé de l'idolâtrie. On a vu que l'idolâtrie, c'est l'homme qui se met maître de son destin. Il agit comme si c'était lui le créateur et que c'est lui qui appelait les choses à son existence. Et là, il va faire une idole, il va se faire une statue. Puis là, il va s'établir lui-même comme Dieu, puis il va créer un Dieu qui lui donne un sens à sa vie. Ça, c'était l'essence de l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Au temps de Jésus, en Israël, chez les Juifs, il n'y avait pas d'idolâtrie. En fait, il n'y avait plus de statue parce qu'on s'était fait emporter en déportation à Babylone à cause de ça. Fait que les Juifs, ils ont dit... Il ne faut pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Fait que les trois premiers commandements qui touchent à l'amour pour Dieu puis les idoles, ça, c'était réglé en Israël. Mais Jésus a voulu montrer dans les évangiles que ce n'était pas du tout réglé. Il va leur dire, par exemple, que s'il y a quelque chose dans leur vie qu'ils aiment plus que Dieu, c'est une idole qu'ils sont en train de servir. Puis il va dire, un homme ne peut pas aimer mammon et Dieu. Et il va parler de ceux qui aiment l'argent, et de ceux qui aiment Dieu. Et Jésus a dit, si tu aimes mammon, ben tu vas haïr Dieu. Puis le contraste, c'était amour-haine, c'était pour montrer qu'il y en a un qui était aimé, l'autre était mis de côté. Si tu aimes tes parents, Jésus va dire, si tu aimes tes parents plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Et là, il venait toucher au cœur de la famille, puis il venait dire, si tu places ta famille à un endroit plus élevé que Dieu, tu n'es pas digne d'être un disciple de Jésus. Dans le Nouveau Testament, pour l'argent, Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 6, 10, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Jésus, il parlait au peuple d'Israël, puis il leur disait, « Oui, c'est vrai, vous n'avez plus de statues, vous ne vous courbez plus devant des statues, mais il y a des choses que vous avez élevées à un point où ce que Dieu a été mis de côté. » Il disait le corban, il dit, quand vous devez assister vos parents, puis leur donner des sous pour les aider quand ils sont plus vieux, ben vous dites corban. Puis dans Marc 7, 13, corban, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire consacré. C'est comme si je disais à mes parents, malheureusement, l'argent dont j'aurais pu t'aider, parce que tu passes par une période difficile, est corban. Ça voulait dire consacré. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas être utilisée pour un usage régulier. Elle devait être utilisée pour l'usage du temple ou pour soi-même. Puis les pharisiens avaient fait ces préceptes-là pour que les gens gardent leur argent, tu sais, puis qu'ils ne soient pas obligés d'aider leurs parents. Puis Jésus va dire aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Fait que bien qu'il n'y avait pas des idoles, il y avait des choses qui étaient élevées plus hautes que le commandement de Dieu. Et donc, on n'assistait pas le parent qui demandait à ce qu'on... La Bible demandait à ce qu'on assiste notre parent. On faisait autre chose. Okay? Donc, l'idolâtrie ou la nature de l'idolâtrie est l'ennemi numéro un dans nos vies pour être un disciple. Dans le rap, quand on dîne, le dîner, on partage après, puis j'avais dit que quand Dieu te demande de l'aimer plus que toute autre chose, c'est pas parce qu'il veut t'enlever les autres choses, c'est parce qu'il veut les garder. Quand Dieu il dit « donne-moi quelque chose », c'est parce que lui a le pouvoir de le protéger, de le garder. Hein? Et donc, ce que tu gardes, c'est ce que tu perds. Ce que tu donnes, c'est ce que tu gardes. On avait vu que Dieu, dans le fond, ce n'est pas un égoïste qui veut tout pour lui. C'est que, on va voir tout au long du message, que quand on place Dieu en premier, on va aussi profiter des autres choses. Le passage dit dans Timothée qu'il y a des gens qui ont aimé l'argent, l'amour des richesses, et ça les a éloignés de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on doit faire attention à nos désirs. Dans ce message-là, c'est ça que je veux qu'on retienne. C'est qu'une personne qui a peur d'en manquer ou qui veut en faire plus, c'est une personne qui va se diriger parce qu'il a peur d'en manquer ou parce qu'il veut en faire plus, puis il va quitter le domaine de la foi. Jésus a dit, les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment pas et ils ne sèment pas des semences. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas et pourtant le Père dans le ciel les nourrit. Ne vous inquiétez de rien car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et donc, ils se sont abandonnés. Les gens qui ont recherché à ne pas manquer d'argent ou avoir plus de richesses se sont éloignés de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur désir d'en avoir plus ou leur désir de ne pas en manquer les ont éloignés d'une relation de confiance avec Dieu et ne sont plus devenus les disciples ils ont sorti du sentier littéralement. OK. Aujourd'hui, les affections, ce que je veux, risquent de me perdre. Je peux me perdre complètement par rapport à qu'est-ce que Dieu veut pour moi. OK? Et donc, on va prendre le temps de parler des affections. Les affections. Si on affectionne quelque chose d'autre que Dieu, on va finir par sacrifier Dieu pour cette chose-là. Okay? Si on aime quelque chose de plus que suivre Dieu, obéir à Dieu dans notre vie, on va finir par sacrifier Dieu pour ces autres choses. Prenez l'exemple d'un homme qui... après, je ne sais pas moi, 25 ans de mariage, on va l'appeler Jasmin pour... c'est une personne fictive. Il laisse sa femme pour une plus jeune. Puis, quelques semaines après, on ne le retrouve plus dans l'Église. Il ne lit plus sa Bible, a commencé à s'éloigner des choses de Dieu. Pourquoi s'éloignerait-il des choses de Dieu? Pourquoi il ne fait pas juste continuer à aller à l'Église, lire sa Bible? Pourquoi? Parce que c'est une chose que Dieu ne veut pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut satisfaire sa propre personne. Donc, ce que je désire peut m'amener loin de mon Dieu. Okay? Donc, les affections pour la nouvelle situation est plus grande que son affection pour ce qui est demandé par le Seigneur d'aimer la femme de sa jeunesse. Et donc, il sait que s'il lit sa Bible, puis qu'il retourne à l'Église, puis qu'il veut obéir à son Dieu, puis il veut être un type, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être l'amoureux de la femme de sa jeunesse. Donc, quand on est placé devant un choix où notre style de vie est remis en question et nos croyances, l'homme moderne a tendance, puis peut-être pas juste l'homme moderne, on le voit dans les Écritures aussi, il a tendance à ajuster sa croyance à son rythme de vie, à son style de vie, OK? À sa conduite. Ah, j'avais sauté quatre lignes, là, je me demandais. Exactement. Il y a ici un monsieur, Tony Campolo, qui est un gars qui fait le ministère auprès des jeunes adultes. Puis, tu sais, il y a beaucoup de jeunes adultes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, ils ont eu la Bible quand ils étaient jeunes, mais quand ils arrivent à l'université puis aux études postsecondaires, à un moment donné, il arrive un gros questionnement à savoir, c'est-tu vrai ça, les choses? Est-ce que c'est vrai la Bible? Puis ils remettent beaucoup en question. Puis il y a un jeune homme qui est allé le voir, Tony, puis il a dit, ça fait 2-3 mois là, que je lutte là pour mes croyances, tu sais, puis Tony le connaissait pas vraiment, fait qu'il a posé une question comme ça, il a comme pris un risque, tu sais, puis il dit... Ça fait combien de temps que tu couches avec ta blonde? Il dit, ça fait à peu près 2 mois. Il dit, j'ai remarqué que chez les jeunes gens, à cause qu'ils ont été élevés avec des valeurs chrétiennes, ils savent qu'est-ce que la Bible attend, le mariage et tout ça. Il dit, j'ai remarqué que quand ils ont un struggle, une lutte sur leurs croyances, à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. C'est un style de vie, c'est une façon de vivre qui est remis en question. En psychologie, on va appeler ça la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, j'en ai parlé à mon dernier message, c'est quand deux informations viennent comme ça à un opposé et me font perdre l'équilibre. Et donc, qu'est-ce que les gens font? Ils commencent à re-questionner leurs croyances pour ajuster leur foi à leur conduite pour pouvoir retrouver leur équilibre. Donc, ce jeune-là qui est assis avec Tony Campolo, dans le fond, qu'est-ce que Dieu lui demande? Dieu lui demande, es-tu prêt à recevoir la grâce? T'as sorti en dehors du sentier, mon chum. T'as sorti. Es-tu prêt à recevoir le pardon puis à rentrer dans l'obéissance puis continuer? Ou encore, tu veux changer ta croyance et continuer ta vie? Donc, ce que je désire, ça peut être ce qui me perd aussi. Hein? Et c'est ce qui perd beaucoup des jeunes gens quand ils commencent à avancer dans la vie. Leanne Payne, une auteure qui a écrit le livre « La présence réelle », a dit « Notre amour pour Dieu, donc notre formation de disciple, est en jeu dans notre obéissance. Nous devons donc être avisés. Nous ne manquons pas d'obéir parce que nous manquons d'amour, mais nous perdons l'amour car nous n'avons pas tenté d'obéir. » C'est profond. C'est profond parce que on penserait que c'est l'inverse. Ah, la personne, elle obéit pas parce qu'elle aime pas assez. Non. Parce qu'elle arrête d'obéir, elle finit par perdre son amour pour Dieu. Donc, c'est super important. OK, on va parler du bon cœur. Dans la parabole des terrains, il dit qu'il y a la terre est bien labourée, elle a cueilli la semence, puis elle a porté du fruit. Qu'est-ce qu'un bon cœur? Un cœur bon, est-ce que c'est une personne qui tombe jamais, qui échoue jamais, qui fait jamais d'erreur, qui est toujours plus haut que la moyenne dans les notes? Non. Il y avait ces deux hommes-là qui étaient au temple, il y avait celui qui se frappait la poitrine, que je vous disais tantôt, puis il y a l'autre qui était à côté, puis il disait, « Hey, moi, Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme au temple, puis je suis pas comme le reste des hommes, tu sais, je suis une coche en haut. Tu sais. » Est-ce que c'est ça un cœur bon? Puis l'autre qui dit à Crème, je suis désolé, j'ai fait du mal à mon prochain. Les publicains, c'était un publicain, cet homme-là, c'était des voleurs, en fond. Il chargeait des taxes pour n'importe quoi, à peu près. Puis, il était vraiment pas. Il était pas dans le temple en passant. Il était en avant du temple. Il était l'autre bord parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer, parce qu'eux n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. C'était trop des méchants. Tu sais. Puis Jésus dit. Il se frappait à la poitrine et disait « Sois apaisé ou sois miséricordieux ou pardonne-moi. » Il était désolé et il admettait qu'il avait fait mal puis il admettait qu'il avait besoin du pardon de Dieu. Ça, c'est un bon cœur. Un bon cœur, c'est quelqu'un qui n'essaie pas de toujours justifier qu'est-ce qu'il a fait. Il se met en lumière, il laisse la parole de Dieu venir puis il ne rationalise pas pour continuer dans un mauvais sentier non plus. J'aimerais voir ce publicain-là, qu'est-ce qu'il est devenu après. Mais un cœur, bon, c'est pas quelqu'un qui fait le bien tout le temps, mais c'est un cœur qui ne se prive pas de la grâce de Dieu, qui reçoit le pardon, qui reçoit la faveur non méritée de Dieu. quand Jésus il dit qu'il veut qu'on l'aime plus que l'argent, qu'on l'aime plus que nos parents, qu'on l'aime plus que les préceptes qu'on a, Jésus, il met un ordre dans l'amour. Il met un ordre dans l'amour. Pourquoi est-ce que Dieu veut être aimé plus que toute autre chose? C.S. Lewis nous donne une piste. Il dit, on doit nous entraîner à aimer Dieu plus que tous les gens et les autres choses dans le monde. Remarquablement, quand nous le faisons, les autres choses de nos vies sont aimées davantage. Quel est le premier commandement? Patrick? Oui? Comment? Puis après ça, le deuxième commandement qui lui est semblable? Aime ton prochain comme toi-même. Donc, si on s'entraîne à aimer Dieu plus que tous les gens et les autres choses dans le monde, on va éventuellement aimer les autres choses davantage. Et il poursuit en disant, si nous aimons les choses à la place de Dieu, nous finirons par ne plus les aimer du tout. Donc, Dieu est celui par lequel je vais aimer toute autre chose aussi. Donc, quand Dieu il nous demande de l'aimer en premier, c'est aussi par amour pour les autres qu'il fait ça. Parce qu'en tant qu'époux, si j'aime le Seigneur avec tout mon cœur, mon être et ma pensée, je vais pouvoir aimer ma femme comme Christ m'a aimé. Et donc, par amour pour le monde, Dieu nous demande de l'aimer lui parce qu'il veut qu'on aime le monde comme il nous a aimés. Et Jésus nous a dit, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Donc, C.S. Lewis, il dit, « Est-ce que c'est possible d'aimer trop une chose? » Et il répond, « Non. » Mais il est possible d'aimer des choses plus que Dieu. Et c'est là que vient le problème. Parce que, et c'est l'ordre. Donc, il dit que la source d'un amour désordonné pour Dieu vient d'un trop grand amour pour le monde, mais d'un petit amour pour Dieu. Puis la vie d'un disciple, c'est d'aimer Dieu en priorité, et d'aimer le reste du monde à la lumière de cet amour-là. Éphèse, dans Apocalypse, l'église d'Éphèse, Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi à l'église d'Éphèse, c'est que tu as perdu ton premier amour. Hein? Il lui dit, qu'est-ce qu'elle doit faire pour retrouver? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle doit faire pour retrouver son premier amour? Apocalypse 2:4. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. On va terminer avec un verset tourné dans Matthieu 6:33. Qu'est-ce qu'il dit ce verset-là? Quelqu'un peut nous le lire fort? Vas-y, Louise. Merci, Louise. Donc, dans ce verset-là, il nous est dit qu'on doit chercher les choses du royaume de Dieu. Donc, c'est un ordre que nous, on doit faire et ça doit être en premier. Dans l'Apocalypse, il dit, pratique tes dernières œuvres, tes premières œuvres. Rappelle-toi les premières œuvres que tu as faites quand tu as compris qui Jésus était, qu'est-ce qu'il avait fait pour toi. Et donc, il y a une priorité à mettre dans nos désirs. Et on doit s'entraîner à placer les choses de Dieu en premier. Un passage pour vos notes personnelles, dans Colossiens 3, 1 à 3, c'est écrit de chercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Je vais terminer avec... La conclusion, dans le fond, c'est que le monde aujourd'hui est perdu parce qu'il a placé la création à la place du Créateur. Dans Romains 1, je vous lis, c'est un problème de priorité. Quand j'ai dit au début de mon message, c'est ce qu'on désire qui nous perd, dans Romains 1, c'est écrit que les hommes connaissent Dieu parce qu'ils ont vu ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité. Puis, ils ont connu Dieu, mais regardez bien, au verset 21 Romains chapitre 1, verset 21, il dit, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu grâce, et se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Et là, le verset 24 dit, « Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. » Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il a dit, « C'est quoi tu veux vraiment dans la vie? Tu veux ça? Vas-y! » Fait que Dieu, il donne qu'est-ce qu'il veut. L'homme a décidé qu'il adorerait pas le Créateur, mais la création. Qu'il profiterait de la création, mais pas du Créateur. Et Dieu dit, ben, c'est de la création que tu veux, donc je vais te donner ce que ton cœur désire. Et lui donne ce qu'il désire, c'est quoi? C'est de se tourner vers la création. Puis là, comme l'homme est fait pour Dieu, et l'homme a dit, non, moi, je ne suis pas fait pour Dieu, je suis fait pour la création. Mais là, il s'est passé que dans les passages qui suivent, l'homme a été tourné vers l'homme et la femme vers la femme. Donc, l'homosexualité, dans une société où l'homosexualité grandit beaucoup, c'est une société qui a rejeté son Créateur. Le problème n'est pas nécessairement individuellement à la personne homosexuelle. Le problème, c'est un problème de notre société. C'est qu'on a dit, nous, on ne veut pas de Créateur, nous, on veut la création. Et ce qui est naturel, c'est que l'homme adore son Créateur. L'homme n'a pas voulu de ce qui était naturel. Et donc, dans le passage, c'est écrit que le cœur de l'homme est allé vers ce qui n'est pas naturel, c'est-à-dire homme avec homme, femme avec femme. Et c'est écrit, Dieu les a livrés, Dieu leur a donné ce que leur cœur voulait. Donc, quand on dit au début de mon message, est-ce que quand Dieu nous donne qu'est-ce qu'on veut, comme on écureuil avec son coq, est-ce que c'est nécessairement la bonne affaire? Pas nécessairement. Pourquoi? Et le verset 25 dit, « Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, béni éternellement. » Dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on voit? Un homme et une femme qui préfèrent la création que le Créateur. On voit un amour qui est désordonné. La créature est aimée plus que le Créateur. Et qu'est-ce qu'on voit? Un homme qui reçoit ce qu'il veut avoir. Et Dieu qui donne à l'homme qu'est-ce qu'il veut. À la fin, n'est-ce pas ça l'éternité? N'est-ce pas ça la fin de toute chose? Il y aura deux destinées. Dieu qui donnera à tous les hommes ce qu'ils veulent avoir. Il y aura deux destinations, la Nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et la Nouvelle Terre. À l'intérieur, dans ce cadre-là, il y aura les anges qui n'ont pas chuté, qui ne sont pas devenus des démons. Il y aura Israël qui aura cru à Dieu. Et dans la période de l'Église, les gens qui auront voulu que Jésus soit leur Dieu et leur maître. Dans le lac de feu, c'est les gens qui auront voulu vivre sans le Créateur ou sans une relation avec le Créateur. Mais il faut se poser la question... Est-ce que c'est une menace? Non, ce n'est pas une menace. Pourquoi est-ce qu'une personne qui n'a pas voulu avoir une relation avec le Créateur se ramasse dans un endroit où il n'y a pas de relation, avec une relation intime avec ce Créateur-là? Pourquoi ce n'est pas une menace? Pourquoi ce n'est pas « Hey, si tu n'acceptes pas le Seigneur, tu t'en vas en enfer? » Pourquoi ce n'est pas ça? C'est pas ça parce que quand on regarde à la croix, on s'aperçoit que Jésus-Christ a tout fait pour qu'un homme ne soit pas puni. Donc, la Bible, elle nous dit qu'à cause qu'on a péché, on devrait être séparé d'avec Dieu. Jésus-Christ prend nos péchés sur la croix. Il est puni à ma place pour que moi, je ne sois pas puni avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui reçoit ma punition. Donc, il n'y a pas de menace parce que ça a déjà été payé. C'est déjà fait. Pour tous les hommes, Jésus est mort et a payé la dette pour tous les hommes, pour que personne soit puni. Une autre raison pourquoi ce n'est pas une menace, l'éternité sans Dieu, ou l'éternité sans une relation avec Dieu, c'est parce que n'importe qui, présentement, peut ne pas être jugé tout au long de sa vie, peut arriver à comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ a fait et accepter qu'il a payé tout. tous les jours de sa vie, et ça, peu importe le nombre de ses péchés. Parce que Jésus-Christ, il a été puni pour tous les péchés. Troisième argument, pourquoi est-ce que ce n'est pas une menace qu'il y a des gens qui vont être dans le lac de feu pour l'éternité? C'est parce que Dieu, présentement, reporte la fin du monde à son maximum. Dans le livre de Pierre, c'est écrit qu'il reporte et il use de patience envers tous, voulant que tous, 2 Pierre 3, 10, il use de patience, il étire le temps de l'ère actuelle, voulant qu'un maximum de gens, en fait, que tous soient sauvés et que tous viennent à la repentance. Donc, ce sont des arguments qui démontrent que quand Dieu nous donne ce qu'on veut, puis qu'il y en a certains qui finissent dans une éternité, dans le lac de feu, bien, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire pas de créateur, pas de... C'est ça, une vie sans relation avec le créateur. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans mon message? On a posé la question, est-ce que quand Dieu nous donne tout ce qu'on veut, c'est toujours bon? Et je vous ai montré la photo d'un écureuil qui buvait du coke, pour dire, pas nécessairement. C'est pas toujours bon, mais c'est toujours juste, par exemple. Au début de mon message aussi, j'ai parlé que les affections, ce qu'on désirait, avaient le pouvoir de nous perdre. Par exemple, une personne qui veut faire plus d'argent ou une personne qui a peur d'en manquer peut s'éloigner de sa marche avec Dieu et de la foi. Les préceptes peuvent venir complètement s'opposer à des préceptes de la Bible ou de ce que Dieu attend de moi. Par exemple, quand on disait, au lieu de supporter mes parents âgés avec mon argent, je le déclare corban ou consacré. On a vu que quand on est placé souvent dans des choix dans nos vies, on est placé entre le choix de nos voies ou bien non, de se repentir puis dire « J'ai eu tort, pardonne-moi », puis là, on rembarque dans le chemin. On est plus enclin à suivre nos propres voies puis à ajuster notre foi par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Par contre, on a vu que c'est quoi avoir un bon cœur? Avoir un bon cœur, c'est quelqu'un qui est honnête, qui dit « Garde, j'ai manqué. Je te demande pardon. Aide-moi maintenant à marcher de nouveau. » Le disciple, il ne devrait pas se décourager. La question qu'on a mise à l'écran, c'est pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas se décourager? Bien, parce qu'à chaque fois qu'on sort en dehors du chemin, on peut revenir à cause de la grâce de Dieu puis le pardon qu'on a en lui. C'est ça, avoir un bon cœur. Et ça, parce qu'on a la grâce de Dieu puis le pardon toujours accessible, on ne devrait pas avoir peur de revenir tout le temps dans ce que Dieu nous dit puis de dire, « Ah ben OK, j'ai manqué. » Je reviens et je continue à faire bien. Finalement, plus loin dans mon message, puis vers la fin, on a vu que aimer Dieu, en fait, avec nos affections, c'est de faire ce qu'il dit. C'est, je vais obéir à ce que je vois dans la Bible, je vais le mettre en pratique, puis je vais pratiquer mes premières œuvres, puis je vais retrouver mon premier amour. Puis finalement, à la fin de tout, c'est pas mal d'aimer toutes les choses super gros. Ce qui est mal, c'est de les aimer sans aimer le Créateur. Puis que le problème, c'est pas d'aimer beaucoup les choses, c'est d'aimer peu le Créateur. Puis que si on pouvait renverser ça, mettre un nouvel ordre dans l'amour, eh bien, on aimerait plus la création. Parce qu'on aurait été à la lumière de son amour. Puis on va se tourner, puis on va être vraiment les disciples que Jésus nous appelle à être, à aimer le monde comme il a aimé le monde. Alors, on va terminer avec un mot de prière. C'était ça mon message. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour... la Bible, Seigneur Dieu, que tu nous as laissée. Même la dernière acétate qui nous montre l'éternité, Seigneur Dieu. Ton désir le plus grand, c'est qu'on passe l'éternité avec toi, que tu règnes sur nous, que tu sois notre roi et notre père. Amen. Mais en même temps, parce que tu nous as créés libres, tu nous permets de vouloir autre chose que ce que tu as préparé pour nous. Et ça nous fend le cœur que des gens qui vont passer l'éternité loin de toi parce qu'ils vont avoir voulu, quand ils étaient sur la terre, désirer autre chose que toi. Mais en même temps, Seigneur Dieu, c'est juste. C'est pas toujours bon, mais c'est juste. J'aimerais te remercier, Jésus, pour ta mort sur la croix. Merci d'avoir payé la dette de nos péchés afin que, quand on va mourir, on puisse aller au ciel avec Dieu sans passer par le jugement, parce que c'est toi qui as été jugé pour nous. On a vu dans le message, Seigneur Dieu, que nos désirs, c'est ce qui peut nous perdre, Seigneur. Ce qu'on recherche, Seigneur Dieu, ce qu'on veut absolument avoir, c'est ce qui peut nous perdre. Aide-nous, Seigneur Dieu, à te désirer toi, puis désirer le royaume de Dieu en premier. Si vous êtes ici ce matin, vous écoutez sur enregistrement, puis vous avez entendu parler de ma dernière acétate qui dit qu'il y a l'éternité, il y a la Nouvelle Jérusalem, puis il y a aussi le lac de feu. Et que vous avez entendu parler dans mon message de la croix de Jésus. Ce qu'il est, il est Dieu devenu homme. Ce qu'il a fait, il est mort sur la croix pour vous. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette transaction-là d'accepter que Jésus-Christ paye la dette de vos péchés. Bien qu'il l'a déjà fait, que c'est déjà payé, il vous demande d'accepter qu'il a fait cela pour vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est de reconnaître que vous ayez un cœur bon. Le cœur bon, ça voudrait dire quoi? Reconnaître que vous aussi, vous avez péché. Que vous aussi, vous avez besoin d'être pardonné. Et comme le gars qui se frappait à la poitrine, d'avoir besoin que Dieu soit apaisé envers vous. Et la seule manière que Dieu peut être apaisé envers vous, c'est en punissant vos péchés de façon correcte et juste. Et ce qu'il a fait, il a puni vos péchés dans la personne de Jésus-Christ et il est ressuscité des morts pour vous donner la vie éternelle. Si vous voulez accepter le cadeau que Jésus-Christ vous a offert en mourant sur la croix, vous pouvez prier cette prière avec nous. La Bible a dit que lorsqu'on confesse de notre bouche puis qu'on croit que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité entre les morts, on peut être sauvé. Fait qu'on va faire cette prière-là, puis les gens de l'Église vont la faire. Si vous nous écoutez sur enregistrement aussi, faites-le là, chez vous, dans votre salon. Faites-le en croyant qui Jésus est et ce qu'il a fait pour vous. Et répétez cette prière avec nous. On va la faire ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin d'être pardonné. Merci d'avoir donné ta vie comme une rançon pour mes péchés. Merci d'être ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Seigneur, si une personne a fait cette prière pour la première fois, je te prie que ton Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit puisse venir dans cette personne-là et lui montrer comment tu l'as tellement aimé que tu as fait ça pour elle. Puis je te prie que tu la remplisses de ta paix et de ta présence et qu'elle sache qu'aujourd'hui même, elle a reçu le don de la vie éternelle. Je te prie aussi pour chacun d'entre nous, Seigneur. On a vu dans le message que tout ce qu'on aime, c'est ce qui peut nous perdre. Aide-nous à aimer les choses d'en haut. Aide-nous à pratiquer la parole. Puis, merci pour ta grâce, Papa. Merci parce que 90% du temps, on n'est pas dans la bonne trail. Puis, parce qu'on a un cœur honnête et bon, parce qu'on veut avoir un cœur honnête et bon, Seigneur, on peut recevoir ta grâce, puis marcher à nouveau dans les sentiers que tu as prévus pour nous. Amen. On va finir avec un chant.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.